Alors, dès qu'il fera un peu meilleur, dès que le soleil, enfin en tout cas la pluie s'arrêtera, eh bien vous pourrez aller arpenter les quelques 350 hectares de parcs et jardins publics de la ville de Lausanne. Et oui, il y a de quoi rendre vert de nombreuses métropoles et de nombreuses villes, car Lausanne, eh bien c'est l'une des villes les plus boisées et fleuries au monde. Dave Lutie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, vous êtes professeur de l'histoire de l'architecture et du patrimoine à l'université de Lausanne, et vous êtes le directeur de la publication collective, publication qui s'appelle Lausanne, Parcs et Jardins Publics. Alors les parcs lausannois étaient évidemment et sont connus des promeneurs, mais ils n'étaient pas vraiment encore étudiés par les chercheurs. Et vous avez donc décidé avec un groupe d'étudiants de vous mettre un peu au vert et d'aller se pencher, d'aller se promener sur une vingtaine de sites qui datent du 18e, du 19e et 20e, 21e siècle. Donc parlez-nous un tout petit peu de tout ce projet quand même.
Oui, alors c'est un très beau projet qu'on a initié avec le soutien de notre éditeur, la Société d'Histoire de l'Art en Suisse, dans une collection qui a été créée pour nous, Architecture de Poche. Et le but, c'est de faire des guides pour un public intéressé d'objets patrimoniaux. On a commencé par les écoles il y a 2 ans. Et puis, on a continué avec les parcs et jardins, avec le soutien de la ville de Lausanne et dans le cadre aussi de Lausanne Jardin, la 5e édition cette année de Lausanne Jardin. L'idée était de faire un corpus de parcs et de jardins intéressants à visiter, bien conservés, des parcs historiques, anciennement privé parfois mais devenu public, tout est visitable sans problème. Et donc on a fait d'abord un inventaire, on a envoyé les gens sur le terrain. L'inventaire s'est fait au printemps de l'année dernière, rappelez-vous, il a plu du mois de février au mois de juin, donc ça n'a pas été facile à chaque semaine. On a fait néanmoins cet inventaire et ensuite à l'automne on a écrit des articles thématiques à partir de l'inventaire qu'on avait réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que le livre qui fait 200 pages, moi j'ai écrit quelques pages, mais l'essentiel est écrit non pas par des professionnels avérés, mais par les étudiants. Et le projet est un projet formateur où chaque étudiant écrit sa partie, a le droit de présenter ses hypothèses, ses idées, à partir évidemment d'un cadre donné par les enseignants. Et le résultat, richement illustré en couleurs, avec beaucoup de très belles photographies, évidemment, permet de lire ces textes de façon très illustrée. Il me semble très agréable.
Très agréable, c'est vrai, je confirme. Et est-ce qu'il y a alors une raison particulière qui explique ce goût pour les espaces verts et puis les parcs, les jardins, tous les lieux boisés et fleuris de Lausanne?
Alors évidemment, dans la culture domestique ancienne, il y a toujours un jardin près de la maison pour manger. Hein, simplement, on a un potager près de la maison, un jardin fleuriste. Mais il faut dire qu'à Lausanne, la topographie très particulière de la ville en pente implique que la vue, le paysage est très présent. Et dès le XVIIIe siècle, peut-être même avant, mais ça on n'a pas de traces écrites, on sait qu'il y a une fascination pour le paysage lacustre et alpin. Et donc la plupart des grands parcs lausannois anciens vont se tourner ou s'ouvrir littéralement vers le paysage. Et ça a provoqué une forme de parc assez particulière, qu'on ne retrouve pas partout, qui est spécifique à Lausanne à mon avis.
Alors au XVIIIe siècle, les grands parcs lausannois, c'était surtout des jardins privés, des parcs privés. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce qu'on concevait au XVIIIe siècle un jardin ? Enfin, un jardin, c'était suivant des règles très précises, je crois que c'était selon les préceptes français, justement, avec ses formes très géométriques aussi.
Absolument. Alors, il y a deux vagues importantes au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le jardin à la française, géométrique, régulier, posé sur des terrasses avec les fameux buis taillés au cordeau.
En pyramide.
Absolument. les taupières avec des jardins de dentelles de fleurs aussi, très décoratifs, qui sont sous le paysage, mais qui forme un lien entre la demeure et le paysage. C'est une sorte de frontière entre le monde civilisé, culturé, si on veut, et le monde naturel avec la culture, la nature, et on est dans l'entre-deux. À la fin du siècle, on passe au jardin dit à l'anglaise, le jardin paysager justement, qui imite la nature, qui cherche à l'imiter. On recrée des parcs qui sont à l'image d'une nature intouchée. Hein. C'est Rousseau, c'est les grands auteurs qui évoquent les bosquets de Julie et ces choses qui auraient été merveilleusement préservées depuis les temps anciens. Et donc, on crée des parcs dont l'allure n'a pas l'air d'être cultivée, mais au contraire naturelle, ce qui est faux. On fait des grands chamboulements de terrain, on plante des grands arbres. Il y a vraiment un gros travail qui est fait de ce point de vue-là. Il y a à Lausanne quelques très très beaux parcs de cette époque-là, fin 18e, Mourepeau notamment, qui a été ensuite retransformé, Le Désert en particulier, qui sont des parcs qui donnent l'illusion de nature, alors qu'en fait ils ne sont pas du tout naturels.
Ils sont savamment agencés justement. Et alors à partir de quel moment l'espace vert quitte la sphère privée pour intégrer l'espace public? Donc quel moment est-ce qu'on commence à ouvrir des jardins publics à Lausanne?
Alors les velléités de jardins publics sont très précoces. Fin 18e siècle, à Derrière-Bourg, le journal qui est aujourd'hui à la Place Saint-François, à l'époque était en dehors de la ville. On prévoit une première terrasse avec des arbres pour se promener. La promenade est très importante du point de vue de la culture sociale. Simplement, les moyens sont ce qu'ils sont et le jardin reste assez restreint. On pense faire un jardin botanique public qui ne se fera qu'un siècle plus tard. Et ça n'est finalement qu'à la fin du 19e siècle que les grands parcs publics vont se créer. Et encore, Lausanne n'est pas une ville très riche de ce point de vue-là par rapport à Genève ou d'autres villes romandes. Il n'y a pas de grands parcs anglais. Hein. Ça apparaîtra qu'au 20e siècle. Mais disons que Montbenon, par exemple, la colline de Montbenon, dès la construction du tribunal fédéral en 1870, on va construire une vaste esplanade avec une allée qui remplace une allée plus ancienne. C'est un lieu de promenade très ancien, mais Montbenon est l'un des premiers parcs publics importants, et on va y dresser des statues, des fontaines, toutes sortes d'éléments patriotiques, idéologiques, commémoratifs, qui vont rythmer le parcours des passants et qui vont en faire un des plus beaux parcs publics, avec la vue évidemment sur le paysage.
Débuti, vous évoquiez justement le jardin botanique, vous avez écrit un chapitre qui porte sur la botanique, science qui émerge aussi au XVIIIe siècle. Alors, est-ce que les botanistes vont être étroitement associés aussi à l'aménagement de ces jardins publics dans le courant du XIXe siècle, enfin en partie, ou pas du tout, outre les jardins botaniques?
Oui, alors ils ont un rôle important, c'est même parfois eux qui initient certains jardins. Alors ça marche pas toujours très bien parce qu'un jardin botanique ça coûte cher, mais de fait le jardin botanique de Lausanne lié au musée botanique est fondé à partir d'une collection de barons qui étaient fanatiques de toutes sortes de plantes différentes, notamment de Saliacées, et donc ils lèguent sa collection de rocailles en fait à l'état de Vaud qui se trouve un peu obligé de créer un parc botanique. Ceci dit, ça va prendre 70 ans, ça ne se fait pas en quelques jours, mais le parc botanique actuel découle d'un don privé d'un botaniste. Et pour d'autres jardins moins spécifiques, il y a aussi la promenade Jacques Mercier à l'avenue du Léman, qui est aussi la volonté d'un privé de créer un arboretum. Et donc, il va céder des conseils avisés d'un botaniste pour créer cette promenade avec des arbres très, très remarquables encore aujourd'hui. Et donc, il y a souvent une alliance entre le fondateur du parc et un botaniste. Il y a souvent un goût très marqué du commanditaire pour la botanique et le botaniste ensuite peut s'amuser un peu à créer un parc selon ses goûts et ses envies.
Et alors au XXe siècle, comment est-ce qu'évoluait justement tout cet aménagement vert urbain à Lausanne? Quels étaient les changements fondamentaux qu'on a pu observer?
Alors, dans un premier temps, les jardins historiques n'intéressent plus beaucoup. On n'a pas conscience que c'est un patrimoine en soi. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'on va prendre conscience que c'est un patrimoine aussi, comme le patrimoine bâti. Et donc, on va retourner à des restaurations de jardins, ce qui est tout à fait nouveau, Montrepos notamment. D'autres parcs vont être transformés. Et là, c'est intéressant car il y a le fondateur du service des parcs et promenades, André de Sarzan, qui est un paysagiste de renommée vraiment internationale, qui va lui redessiner une partie des parcs lausannois avec un goût tout à fait typique de son temps, donc années 50 à 80 à peu près. Et il va ajouter une couche en fait au parc historique. Il y a le parc ancien et puis il y a l'époque de Sarzan par-dessus, notamment à Derrière-Bourg, à Montbenon, au Casino par exemple. Des parcs très architecturés avec des charmilles qui ouvrent des fenêtres sous le paysage, avec des parterres très organisés, assez à la française en fait, mais qui s'insèrent souvent dans des parcs à l'anglaise faussement naturels. Il y a une alliance entre deux formes de parcs extrêmement bien maîtrisées, et de Sarzan a laissé des dizaines de parcs en ville, que grâce à Hélène Rappa qui s'est lancée dans cette étude de façon très très rigoureuse. Nous avons maintenant une idée très précise de ce que de Sarzan a fait, et je pense que c'est un bel hommage à lui rendre, il est décédé depuis déjà quelques décennies, que de réétudier ces parcs qui sont maintenant en train d'entrer dans le patrimoine vert 30 ou 40 ans après la disparition de leur auteur.
Debussy, donc la publication Lausanne, Parcs et Jardins Publics comporte deux parties, on l'a dit. Il y a une première partie historique avec des articles qui retracent les histoires des espaces verts lausannois. Et puis la deuxième partie, eh bien, elle fait office de guide en fait, en proposant des itinéraires, des idées de promenade. Quel est votre itinéraire préféré, enfin celui qui vous a le plus marqué, Debussy?
Bonne question. Nous avons testé tous les itinéraires sous la pluie, malheureusement, l'année passée. Mais je dois dire que l'itinéraire D, celui que vous découvrirez en dernière page de couverture, qui part de Sauvablin et qui finit au Casino, extrêmement intéressant parce qu'on traverse une bonne partie de la ville, à pied évidemment, en passant du lac de Sauvablin, qui est une sorte de montagne pour les Lausannois, avec son parc zoologique, son chalet et ses bateaux. On passe ensuite à l'Ermitage, qui est un parc paysager, mais déjà beaucoup plus soigné. Et on arrive en ville, à la cité, on passe près de la cathédrale, on voit des parcs des années 60 extrêmement rigoureux, pour terminer chez de Sarzan justement au Casino, avec un parc qui allie les deux formes qu'on aura vue auparavant, avec une vue magnifique. Et je trouve vraiment intéressant cette alliance du naturel et du culturel, si on veut. On passe d'une forêt à un parc, au final, au casino, extrêmement dessiné. Mais à chaque fois, on a le sentiment d'être à l'aise dans tous ces parcs-là. Et cette promenade-là, qui prend environ 2 heures, si on prend le temps de la faire correctement, entraîne vraiment des univers, des atmosphères très différentes, avec des vues, puisqu'on descend de Sauvablin au centre-ville, avec des vues sur la ville tout à fait surprenantes. Et je pense que pour un connaisseur de Lausanne, comme pour un non-connaisseur de Lausanne, c'est un itinéraire qui permet de découvrir la ville et ses espaces verts de façon assez, assez éloquente.
Bien, merci beaucoup. Alors, je rappelle que cet ouvrage Lausanne Parc et Jardin Public est édité par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse. C'est dans la collection Architecture de Poche. Comme son nom l'indique, il est tout petit. On peut le glisser dans sa poche et le sortir dès qu'on a envie de se mettre au vert et dès qu'il fera meilleur aussi. Merci beaucoup, Dave Luthier, de nous avoir rendu visite ce matin.